Bonjour Colin, ça va bien. Écoute, ça me fait plaisir de t'avoir et bravo pour ce que tu fais, bravo pour ta chaîne, c'est vraiment un truc sympa. Donc ça me fait
C'est
plaisir
gentil.
de passer un petit peu de temps avec toi.
On va revenir un petit peu sur cette carrière de footballeur parce qu'elle en intéresse plus d'un. Et on va reprendre depuis le début parce que toi, depuis le début, c'est actif. Depuis le début, c'est particulier. Depuis le début, c'est intéressant. L'OM, ça a toujours été une priorité pour toi. Tu as toujours rêvé de percer dans ton club de cœur. Les années formation, les années avant professionnelles, comment elle se passe pour toi? Est-ce que l'évolution est limpide, simple? Ou est-ce qu'il y a des accrocs particuliers qu'il a fallu corriger pour atteindre le monde professionnel?
Donc à cette époque-là, il y a Rougneux, il y a d'autres gardiens de ma catégorie, on va dire de mon âge, un peu plus vieux, mais il y avait un poste de second gardien qui était à prendre. Et je me souviens, on se retrouve en stage, on fait un stage en Bretagne. Tu as à un moment donné, je suis sur le banc ce jour-là, et on joue un petit tournoi, je crois qu'il y avait Nantes, Rennes et Marseille. Et sur le dernier match, on joue Rennes et on mène 1-0, je me souviens toujours. Et je suis sur le banc de touche, hein, je suis prêt en tenue, quoi. Et tout va bien sur le match, hein, tout se passe très bien. Et à la 76e minute, je me rappellerai toujours, t'as Perrin qui... Alain Perrin qui me regarde et qui me dit Rougneux, il est blessé, tu rentres. Je regarde Vedran, Rougneux, je dis, mais il n'est pas blessé. Et en fait, il a voulu me mettre dans une situation comme si c'était en match, à me dire, mon deuxième gardien, mon premier gardien, il se pète, il faut qu'il y aille, quoi. C'est parti. Donc je me change, je pars et je fais un match incroyable. Je crois qu'il n'y a pas eu d'action contre nous. Je pense qu'en 15 minutes, je dois sortir 4-5 arrêts décisifs. Un truc de fou. Et du coup, Perrin dit, bah, écoute, c'est toi qui va faire second gardien de Rougneux. Et c'est comme ça. Là, ce que tu m'as montré, tu es prêt, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler sur toi, que ça aille mieux, etc., etc. Donc, une saison se passe où on fait second du championnat, tout se passe bien. Il y a Rougneux, ben, je crois que c'est là où je fais mes premiers matchs à Marseille. Je pense, hein, dans l'année, dans la saison, à un moment.
T'en fais deux, je crois, ou trois, je crois.
Voilà, Rougneux est un peu moyen. Je fais mon premier match contre Montpellier à la maison et un match à Guingamp où on fait 0-0. Et je fais deux super matchs. Après, il rentre, on finit la saison, tout se passe bien. Qualifié pour la Ligue des Champions, on démarre la Ligue des Champions. L'année d'après avec Drogba, tout ça, toujours remplaçant de Rougneux, mais voilà, j'étais là, j'étais dans le coup et tout se passait bien. Et match amical contre France 98 pour les invitations qu'il y avait eu
Un
dans
match de
le
gala.
Var. Voilà, dans le Var, un match de gala, on joue France 98 au Vélodrome, mais la première blessure, rupture ligament croisé, stop arrêt.
Mais comment on vit ça? Parce que quand on est un jeune gardien, enfin, avec tout ce que tu as vécu en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi, à ton âge, à l'OM ou via l'OM, ça va déjà très vite, c'est déjà chargé en émotions. Quand on vit ça là, alors que c'est un match de gala en plus, donc c'est entre
Oui.
guillemets un match qu'on
Bon,
peut éviter.
on le joue un jour ou deux après le match au Real Madrid contre
Ouais.
la Ligue des Champions, quoi. Donc,
Comment
ouais.
tu vis ça, toi, cet instant-là? Est-ce que tout de suite, tu sais, au moment de la blessure, tu sais que c'est grave et tu sais que ça va durer?
Je sais que ça va être compliqué, mais en même temps, je suis quelqu'un de très pragmatique, si tu préfères. Je bascule très vite, en fait. Je suis quelqu'un qui bascule très vite d'un truc à un autre. Et je me dis, il faut que je prenne ça pour une chance. C'est bizarre comme réaction.
Surtout
Comme
après
si
cette
à cette
blessure.
époque-là, j'avais des gros problèmes de poids, je m'en étais pas encore sorti totalement de tout ça. Et je me dis, ça va être, je coupe. Et je prends cette blessure comme des vacances, en fait. Ben, je sais que le foot, une fois que tu es là, mais quand tu n'es plus là, on t'oublie. C'est un truc à savoir. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quel joueur, une fois que tu es blessé et d'une longue durée, ben, tu as tous les copains qui continuent, le groupe il continue, le club continue. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que le club est au-dessus de chaque joueur. C'est la vérité. Le club il restera, les joueurs passent. C'est la réalité. Alors en plus, je n'avais pas un statut non plus énorme à Marseille. Hein. J'étais gardien remplaçant, j'étais jeune. Donc après, les choses avancent, encore un changement d'entraîneur.
Oui, en plus.
Et tu vois les choses passer et tu te dis, ben, ça se complique, il y a d'autres choses qui se mettent en place, il y a l'arrivée de Barthez, il y a des jeunes qui se mettent en place, il y a des relations qui se créent, il y a un entraîneur adjoint, tout un staff différent. Et je suis dans ma rééducation et on me fait comprendre clairement que voilà, c'est pour toi, il faudra voir autre chose, quoi.
Ah, pendant ta rééducation, on te dit ça?
Ouais, pendant ma rééducation, on me dit, écoute,
Ah oui.
la rééducation le prend du temps, t'es pas en forme. C'est vrai, je le sais que j'étais pas physiquement prêt, mais bon, il me restait 4 mois de rééducation, je le savais, hein. Mais j'avais besoin de montrer autre chose. Tu vois, j'avais ce problème de poids et ce truc de me dire, j'ai réussi à être pro à Marseille, à jouer à Marseille,
Ouais.
à être reconnu par du monde en n'étant pas en forme. Je me suis dit, mais si je suis en forme, ça va être comment? Je veux voir ce que ça fait d'être vraiment dans la meilleure forme de ma vie. Et là, je suis en pleine rééducation, je m'en vais, je demande au club à partir, à pouvoir me rééduquer à Saint-Raphaël, au CERS de Saint-Raphaël. Je rencontre un kiné, Jean-Georges, à cette époque-là, qui était exceptionnel, et on commence le travail. Travail de rééducation. Tous les jours. L'après-midi, j'allais nager. Le soir, je faisais attention à tout. Et je fais 4 mois comme ça. Et dans ces 4 mois, je dois perdre 18 kilos.
C'est incroyable.
Ouais. Rééducation, du sport, rééducation le matin en faisant du sport, enfin, par rapport à mon foot. L'après-midi, j'allais nager tous les jours. J'allais faire de la natation, j'ai fini, je nageais comme. J'aurais presque pu faire de la compétition à natation tellement.
18.
Et parce que bon, j'avais encore pris pendant ma. Alors, ça ne m'avait pas aidé dans mon
Ouais,
mal-être,
bien sûr,
en
bien sûr.
blessant tout ça. Donc, on n'était pas dans. J'avais pas 18 kilos de trop, mais voilà, tout allait bien. Mais. Et je reviens, et ce qui est marrant, c'est ce qui est marrant. C'est incroyable. Aujourd'hui, ça serait plus possible, mais. Parce qu'on est plus suivi, on est plus
Ouais.
encadré. C'est différent. Moi, j'étais livré à moi-même à cette époque-là. Ce qui est marrant, c'est mon retour à la commanderie à Marseille.
Bah ouais, parce qu'ils ont vu un mec hors de forme qui part et ils voient un mec
Il
ultra fit qui
y en a
revient.
qui ne m'ont pas reconnu au départ. C'est
Ah
ça
ouais,
qui
tu m'étonnes. Tu
est. Et les mecs
m'étonnes.
se disent, et tu vois dans le regard des gens, tu te dis, waouh. Ok, c'est le moment de la reprise de l'entraînement et lui, il est prêt. Hein. Putain, mec, waouh. Les mecs se disaient, c'est pas possible, quoi. Ils demandaient à voir. Alors, ce qui est un peu marrant aussi, c'est qu'à cette époque-là, bon, ben, j'étais en rééducation, j'étais prêt, j'ai jamais fait ça. J'étais en VO2 max, tu sais, les tests avec les masques et tout, je courais à 20 à l'heure, comme un milieu terrain, quoi. Pas
Ouais.
comme un gardien. Donc, j'étais super prêt physiquement, mais je n'avais pas fait d'entraînement de gardien. Donc, je reprends mes entraînements de gardien et au bout de 2 jours, écoute, moi, j'avais des hématomes partout. Mon corps, il supportait plus un choc. Enfin, c'était une catastrophe. Le temps de me réhabituer, tout
Ouais.
ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive, on va dire, en fin de saison à cette époque-là. Il reste 2-3 matchs, tu vois. Donc, bon, ils font leur match, ils font la finale de la Coupe de l'UEFA cette année-là, qui perd en France. Et il y a la reprise. J'arrive pleine bourre, quoi. Et les mecs, ils se rendent compte au bout de 3 semaines d'entraînement, se dire, mais moi, je le vois dans le regard que je suis vraiment largement au-dessus de mon niveau que j'avais avant. Et je suis vraiment bien. À cette époque-là, il y a Barthez, il y a un jeune qui s'appelait Jérémy Gavanon, qui sont là et qui sont proches et qui. Et quand il y a cette situation, je sens que c'est compliqué. Tu vois, il y a déjà un groupe en place, on ne sait pas trop quoi faire, mais en même temps, on voit très bien que je suis au-dessus. Pas de Barthez, bien sûr. Mais non
Non,
plus.
mais t'es largement au-dessus du niveau que tu avais.
Pas
Pardon.
mon niveau que j'étais avant. À cette époque-là, il y a Pape Diouf qui vient d'arriver. Président extraordinaire. Hein.
Extraordinaire.
Vraiment un homme incroyable. Et tu vois que les mecs, ils ne savent plus trop quoi me dire, en fait. Ils ne s'attendaient pas à ça. On commence le championnat, je me souviens, en août, et l'accord, c'était on fait 2 matchs en réserve et 2 matchs sur le banc de touche avec Jérémy Gavanon. J'écoute, moi, je suis en reprise, ça me va. Je me dis, on refera un point en décembre, ça me va. Je fais, mais mon premier match en CFA et ça se passe super bien. Mon deuxième match en CFA, je me souviens, on le jouait à Martigues et j'ai même Pape Diouf qui vient me voir à la fin du match en me disant mais j'ai été incroyable. Enfin, vraiment, j'avais une forme de fou. C'était incroyable. Tout me réussissait.
Ouais.
Et il vient me voir et me dit ouais, c'est génial. Et le soir, je rentre chez moi et il y a le match d'ailleurs de Marseille au Vélodrome ce jour-là. Donc on est rentré un peu tard. Donc j'arrive et en interview de fin de match, un des dirigeants dit bah, le second gardien, ça sera Jérémy Gavano toute la saison. Donc j'apprends cette nouvelle en même temps, là où on devait
Ouais.
souffler. Et du coup, je me dis attends, je vais me retrouver là. Qu'est-ce que je fais? On est le 12 août à peu près. Donc 3 semaines de marché, et je me dis, bon, ben, je me dis peut-être qu'il faut tenter le coup d'aller jouer quelque part, quoi. Et quitte à aller en Ligue 2 et trouver un club qui fonctionne pour moi, qui me fera jouer. Donc, j'ai des touches à ce moment-là. C'est Angers qui vient de monter en Ligue 2. On discute, c'est compliqué. Le contrat que j'avais à Marseille est compliqué à prendre pour Angers. Et finalement, ça ne se fait pas. On arrive, on est le 31 août et c'est fini, quoi. Le marché s'arrête à minuit. Moi, je suis à la commanderie, on va pour s'entraîner le matin. J'appelle mon agent à cette époque et je lui dis, bon, écoute, c'est mort. De toute façon, je vais aller voir mon coach et je vais lui dire que je joue en CFA jusqu'à décembre, ça me va. Moi, tant que je joue des matchs, j'essaierai de trouver une solution plus tard. Mais j'étais motivé, tu vois, je savais la forme que j'avais, j'étais super motivé. Et si tu préfères, je me souviendrai toujours, je pose mon téléphone dans mon casier, je mets mes crampons. J'avais vu mon coach et gardien Spinosi le matin lui dire bon, écoute, Spino, ben, finalement, je reste. Je suis prêt à jouer en CFA, il n'y a pas de souci. Il me dit bon, écoute, c'est bien, on fera le point en décembre, tout va bien, il était content que je reste et tout. Je mets mes crampons, on va pour partir sur le terrain et j'entends mon téléphone vibrer. C'est quoi cette histoire? Et j'ouvre. Ça a insisté, tu vois. J'ouvre et je regarde, je vois mon agent. Je dis, mais je viens de le raccrocher il y a une demi-heure, qu'est-ce qu'il me veut? Et là, je me dis, bon, mais je décroche, tu vois, je décroche en douce, ça n'avait pas le droit au téléphone normalement dedans. Je décroche, j'ai fait, ouais, allô, ouais. Didier, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je viens d'avoir Noël Le Graët, est-ce que tu vas aller à Guingamp? Je dis, attends, Didier, on est le 31, c'est fini là. Il me dit, non, non, il faut que tu me dises oui ou non. Ben oui, je vais aller à Guingamp. Ok, ben, tu vas pas t'entraîner, prépare tes affaires, il faut signer avant minuit. Oh. Je pose mon téléphone, je pars en courant derrière chercher Spinozzi, je dis, bon, ben finalement, je m'en vais.
Il n'y a pas un déclic te disant, bon, bah, en fait, il faut que je m'en aille de l'OM.
Si, ben, c'est ce que je fais. C'est ce que j'essaye de faire. Et quand je pars de Marseille, que je me retrouve à Guingamp, je me dis, oui, moi, à un moment
Faut
donné, je suis
partir.
ici, quoi. Comme
D'accord.
j'étais bien à Crystal Palace.
Ouais.
J'ai fait une saison super et pour aller un peu plus vite, ça se passe très bien. Fin de saison, ben, Le Graët, il me dit, écoute, moi, je veux bien que tu restes.
Ok.
Mais Marseille ne veut pas, une nouvelle fois.
Ok.
Marseille ne veut pas, Marseille se dit, ben, écoute, qu'est-ce qui se passe? L'histoire est simple, c'est que Fabien Barthez, il a une histoire où il crache sur un arbitre à l'étranger, des matchs de suspension
En
et…
6 mois.
Voilà, pendant 6 mois et on arrive en fin de saison et le début de saison est important pour Marseille parce qu'ils jouent cette fameuse Coupe Intertoto, tout ça. Et ils ont des bons retours sur moi et on est deux jeunes, quoi. Il y a moi et Jérémy Gavano pour suppléer Barthez pendant 3 mois, 4 mois, une quinzaine, une vingtaine de matchs avec tous les matchs de Coupe d'Europe de début de saison. Et si tu préfères, ben Marseille me dit non, non, il rentre, il est bien. On met les deux en concurrence et on voit. Autant te dire que je suis arrivé remonté comme une pendule. J'étais prêt, si je pouvais, je pense que je pouvais m'entraîner à cette époque-là. Je pouvais faire 3 ou 4 heures d'entraînement à bloc. J'étais une machine, ouais, d'entraînement à cette époque-là. Mais je mets les choses au clair rapidement. On voit très bien que je suis très sûr de moi et très fort. Sur mon jeu, sur ma capacité physique, surtout en fait, pendant les matchs amicaux, je fais tous les matchs amicaux. Je commence le championnat, je commence la Coupe Intertoto, je commence la Coupe d'Europe et je fais 20 matchs incroyables. Et c'est là mon éclosion vraiment à Marseille, c'est ce remplacement de Barthez qui me lance et me propulse sur le devant de la scène où j'ai toute la. tout le football national qui commence à savoir qui c'est Cédric Carrasco grâce à ce début de saison-là qui est assez incroyable. Et après, Barthez revient, quoi. C'est là où Barthez
Ouais.
revient, il finit sa saison, il fait sa saison de Coupe du Monde de 2006 et moi je prends la suite. Et c'est là où tout démarre, en fait. C'est vrai que c'est très chamboulé, mais en même temps, c'est là où ça démarre pour
Comment ça se passe une cohabitation avec un gardien de l'ampleur de Fabien Barthez? Parce que toi, d'un côté, il y a cette suspension pendant quelques temps.
moi.
Alors, tu deviens numéro un temporaire, parce que
Oui,
c'est en l'absence de Fabien.
ah oui, tu le sais.
Mais tu cartonnes à ce moment-là, c'est-à-dire que tout le public, que ce soit de l'OM, mais même de France, commence à te
Oui.
connaître. Tes performances sont remarquées, il n'y a que des louanges à ton égard. Même au sein du groupe, ça se passe
Oui,
super bien.
ça joue.
Comment on vit au moment où enfin on a sa chance à l'OM et que ça se passe bien à ce point-là, comment on vit le retour de Fabien?
Ben, il te met à l'heure direct, le mec. Moi, j'ai envie de continuer de jouer, je m'éclate. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça reste une dépendance de jouer dans des stades pleins quand tu aimes le foot.
Bien sûr.
C'est dépendant de ça, c'est addictif, quoi. Donc,
Ouais.
tu es dans un stade de 60 000, que les gens t'acclament, que tu fais des super matchs, que tu vis cette vie de groupe, ces scénarios de match avec des joueurs à cette époque. J'étais à Ribéry, on avait un groupe de dingue, ça se passait super bien. Mais quand il rentre, tu as envie de continuer. Tu as les dents, le rey, le parquet, quoi. Tu as envie de continuer à jouer. Sauf que lui, il vient te voir et il te dit, écoute, il te tape à l'épaule comme ça. Alors qu'il ne m'avait pas spécialement adressé la parole jusqu'à là. Il me dit, bon, écoute, petit, tu vas aller t'asseoir sur le banc. Et là, tu le regardes. Tu me fais une blague ou pas? Non, non, le mec, il rigole pas. Et le mec, il reprend sa place et il le sait parce qu'on en a parlé, hein, il a été horrible avec moi toute la saison. Toute la saison.
C'est vrai?
Horrible. C'est-à-dire, il avait un coup, ça, il avait mal quelque part, je m'échauffais tout le long du match, à l'arrivée, rester sur le terrain. On jouait un match de Coupe de France, il n'y avait pas grand monde au stade, donc contre le Havre, et il a un peu mal à la nuque, il dit, bon, je ne peux pas jouer, va jouer au bout de. Tu vois? Et que des trucs comme ça, et en même temps, j'étais admiratif, en même temps, il était gentil, mais en même temps, il était dur avec moi. Et je ne comprenais pas pourquoi, tu vois, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où c'est quelqu'un que je respecterai toute ma vie, c'est un grand, 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 grand Fabien. Parce que, tu vois, une frustration toute la saison, j'avais au fond de moi. Mais vraiment, il y avait un truc, j'arrivais pas à être proche de lui, en même temps, j'arrivais pas à ce que ça se passe bien, mais en même temps, ça se passait bien, et j'arrivais pas à comprendre cette situation, tu vois. Il y avait un truc qui me dérangeait. Et il vient me voir, je me souviendrai toujours, c'était un dernier match d'ailleurs à Bordeaux. On joue le dernier match, c'est un Bordeaux-Marseille. Il vient me voir, enfin pas il vient me voir, il m'appelle au téléphone à la fin du repas. Et il me dit, tu peux descendre s'il te plaît. Je dis, oui, bien sûr. Parce que je respectais énormément, attention, hein, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver toute ma vie. Et il me dit, viens, on s'assoit, on boit un café, tout ça. Et là, il me parle 4 heures. 4 heures. À m'expliquer pourquoi il a été comme ça avec moi toute la saison. Et là, je me dis, OK. Il jouait sa dernière saison pour aller à la Coupe du Monde 2006. Et lui, le monstre que c'est, hein, à tous les niveaux, il se retrouve avec dans les pattes un gamin qui va jouer 15-20 matchs, qui bouscule un peu tout. Il met un peu la zizanie dans sa saison tranquille de préparation du Coupe du Monde. Il me dit, j'ai été obligé d'être comme ça avec toi parce que, voilà, même toi, avec ton jeune âge et tout, tu m'as obligé à aller un peu plus loin, un peu plus haut pour pouvoir préparer ma Coupe du Monde. Donc, il m'a remercié et il m'a dit, voilà, ça sera mon dernier match, après, c'est à toi. Donc, il me fait comprendre qu'il arrête.
D'accord.
Et tu vois, et bien ça a duré 4 heures, hein, je vais vite,
Ouais,
mais
bien sûr, bien sûr.
et c'est quelque chose qui m'a marqué, en fait, qui m'a marqué toute ma carrière et encore aujourd'hui, qui je ne serai jamais assez reconnaissant par rapport à Fabien parce il m'a fait comprendre comment ça fonctionnait et voilà, il faut jamais lâcher l'affaire quand tu es dans le foot. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire une carrière jusqu'à 37 balais ou un truc comme ça. Donc voilà, moi, il m'a fait vivre Il m'a tout fait comprendre en 5 minutes, quoi. C'est pour ça que c'est quelqu'un que j'ai recroisé en équipe de France, qui est venu nous entraîner quelques fois. Enfin, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup au-delà du footballeur, quoi.
C'est incroyable parce qu'au final, tu sais, il y a 10 minutes, on disait, bon, évidemment, pas au-dessus de Fabien en termes de niveau parce que Fabien, c'est un monument. Mais finalement, tu l'as forcé à sortir de ses retranchements pour aller
Il est
jouer une
sorti.
grosse année. C'est incroyable.
Ouais, je l'ai sorti de sa zone de confort alors que moi, je ne m'en rendais pas compte. J'étais jeune, ça se passait bien, il y a tout qui allait bien et j'avais faim, quoi. Et en plus, c'était pour moi une revanche au niveau de Marseille,
Bien sûr.
pour tous les rebondissements qu'il y a eu, de me dire, cette fois, j'y suis, je ne lâche pas l'affaire.
Je ne sais pas s'il y a plus beau compliment, parce que finalement, de dire que tu
Non.
as menacé entre une légende
Non.
comme ça, s'est sentie menacée, c'est un peu
Pas
bizarre.
menacé, parce que loin de là, je veux dire, il est vraiment fort parce que je refaisais des entraînements où moi, physiquement, ben, j'étais jeune. Hein, lui, il avait quand même 36 à cette époque. Le mec, je lâchais rien et il lâchait rien. C'était un monstre physique. C'est mentalement, moi, bon, j'en parle pas. Il était largement au-dessus au niveau de tout. Mais au niveau physique, ben, voilà, moi, j'avais 23 ans et lui, ou 24 ans et lui, il en avait 36. Donc,
Ouais, c'est incroyable.
on s'est tiré la bourre tout le long, quoi. Et c'était incroyable. Et pour moi, ça reste un souvenir fantastique. Et je pense que c'est le premier gros, gros tournant de ma carrière en tant que titulaire.
C'est beau. C'est un bon moment de foot.
Ouais.
Un bon moment de foot. Bon, ton heure est enfin arrivée, du coup, à le septembre
Voilà.
2006. T'es numéro 1 à l'OM
D'accord.
après ses hauts et ses bas. Alors, la saison, elle est incroyable. C'est sous Albert Raymond, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Saison incroyable, vous finissez deuxième, 51 matchs disputés, et tu l'as enfin ta saison pleine à l'OM, où tu es numéro 1. Et tu es au top, en fait, tu es dans le
Ouais, ça se
prolongement des
passe
20
bien,
matchs
hein.
que tu as
Je suis
fait. Il
dans
y
le
a
top.
quoi qui change? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu sens que tu fais des progrès, ou est-ce que c'est simplement le fait que
Non.
tu as eu l'opportunité de faire ce que tu sais faire sur toute la saison simplement?
Non, tu progresses, tu apprends des choses, mais c'est surtout la chance que j'ai eue à cette période-là, c'est d'avoir un groupe. Tu vois, le groupe qu'on avait de joueurs, il était incroyable. Et du coup, on progressait tous ensemble. Donc oui, je progressais en général. Mais c'est surtout de jouer des matchs sous pression, de finir second, faire une finale de Coupe de France avec Marseille. On se retrouve, Ligue des Champions, ça y est, j'y suis, quoi.
Ouais.
Ça y est, on y est avec Marseille, Ligue des Champions, on y est. Et le début de saison, ça ne se passe pas très bien sur le plan sportif pour l'équipe, mais personnellement, ça se passe extrêmement bien. Et je me souviendrai toujours, c'est un mercredi, on a entraînement, et là, catastrophe. Sur un exercice, pim pam, rupture tendon d'Achille, 6 mois. Je sais que tout s'arrête, je sais que la Ligue des Champions, c'est mort. Et tout ça, quoi.
Tu sais pour
Donc,
combien de temps tu en as? Tu sais directement que ça va être si long?
ben, je sens que le tendon d'Achille, et je me dis, c'est 6 mois, quoi. Là, mentalement, c'est dur. C'est très dur parce que je connais ce type de blessure,
Convalescence et tout, ouais.
l'absence. Tu fais plus partie du groupe, tu vis plus l'aventure en fait. Et
Ouais, c'est
juste,
ce que tu
tu te
disais,
fais
ouais.
opérer et tu étais de côté. Et c'est comme ça. Et je le sais. Par contre, je le sais parce que je l'ai vécu une fois.
Ouais.
Je sais à quoi m'attendre. Et là, je prends une décision au bout de 48 heures drastique. Je me dis, je remets plus un pied à l'entraînement. Je veux partir. Je veux plus rester là le temps que je veux pas voir les autres partir en Ligue des Champions. Je veux pas voir les autres. Je leur souhaitais que le meilleur, mais moi, j'avais peur que tous les jours, ça soit, tu vois, soit difficile.
Ouais.
Et je décide de faire toute ma rééducation à l'extérieur du centre d'entraînement. Voilà, il y a des choses qui vont se passer, ben, ça rate pas. Un changement d'entraîneur. Et surtout, il y a l'éclosion de Steve. Steve fait une saison incroyable cette année-là. Il est remplaçant de moi au départ et. Attention, je voyais à l'entraînement qu'il était très bon. Hein. C'était un sacré phénomène, celui-là. Et il explose et il fait une saison incroyable. Et en toute légitimité, il y a un changement d'entraîneur. Et Steph fait une des meilleures saisons de sa carrière, je pense. Et c'est tout à fait logique que quand je rentre, ben, je me retrouve sur ce que j'avais prévu. C'est-à-dire, ben, il y a un groupe en place, quoi. Et un gardien qui est très performant. Donc, il va falloir trouver des solutions.
J'ai deux questions.
Ouais.
La première, elle est sur la relation que tu as avec Steve Mandanda, parce qu'il y a plein de fantasmes malsains qui sont nés au moment de la passation, comme ça, où on décrivait une amertume de ta part, où il y avait plein de choses qui sont apparues dans la presse. La réalité des faits, c'est quoi? Parce que, au
La
final, quand on vous
réalité.
entend, vous, c'est qu'il y a eu une relation tout à fait normale et bienveillante au départ.
Ben, il y avait une concurrence, mais à un moment donné, moi je suis blessé, lui fait sa saison. Et il n'y a jamais eu d'amertume. C'était juste compliqué. Et la personne qui a réussi à démêler tout ça, c'est Eric Guéret. C'est un entraîneur qui a une qualité de gestion de groupe qui est incroyable. Le mec, il vient me voir, il me dit, écoute, Cédric, tu as toujours été bon ici, tu as été blessé, dans la logique, tu devrais jouer, parce que tu ne mérites pas de ne pas jouer. Et en même temps, j'ai un gardien comme Steve, qui me fait une saison incroyable, mais que je ne peux pas enlever non plus, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, non, mais je comprends tout à fait. C'est pas de l'amertume, j'ai jamais eu d'amertume, Steve non plus. On avait juste tous les deux envie de jouer notre meilleur football dans un club où on était. Mais rapidement, moi je le comprends et c'est pas de l'amertume, c'est juste de la déception. J'ai jamais eu, je vais pas reprocher à un gars d'être super bon en fait. Et la preuve en est, c'est qu'on s'est suivi toute notre carrière ensemble, quoi. On a fait quasiment
Oui,
tout
équipe de France.
à se croiser tout le temps à jouer contre. Et le temps a fait que, bien sûr que non, il y avait beaucoup de choses qui se disaient autour parce que voilà, ça fait partie de l'environnement de ce club. Mais il n'y avait pas d'amertume. La preuve en est, c'est que je prends rapidement la décision de me dire, ben, faut pas que je traîne en fait. Faut pas que je traîne. De toute façon, Steve, il est là. Moi, je ne veux pas être second gardien. Et on prend rapidement la décision avec Pape Diouf à cette époque-là de dire, ben, Cédric, il s'en va.
Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est jamais. Alors, c'est le foot et c'est l'OM, mais c'est jamais. À chaque fois que tu touches du doigt le rêve ultime qui était pour toi de jouer à l'OM et d'être numéro 1 à l'OM, il y a toujours quelque chose qui vient, de nulle part ou pas, mais qui vient pour perturber ça.
Juste avant, ce qu'il faut se dire, c'est que je remette ça dans le contexte. J'avais oublié une chose aussi qui était très importante à ce moment-là. Ce mercredi-là, on a le tirage au sort de la Ligue des Champions et en même temps, je reçois une pré-convocation en équipe de France.
En plus.
Donc, je sais tout ce que je perds, tu vois.
Ouais.
Mais oui, il se passe toujours un truc, mais cette fois, c'est fini, je le sais. Je sais que moi, de toute façon, là, j'ai plus de temps à perdre. Je prends cette décision de partir. Alors oui, je ne toucherai jamais le but parce qu'à un moment donné, ben, c'est comme ça, mais il faut prendre une décision. Pour moi, c'est partir. Il n'y a plus aucun intérêt à rester à Marseille. C'est un club qui est jamais stable, on le sait, et on cherche toujours des nouvelles choses, et bien à eux, parce que Steve, il a une histoire à Marseille qui est incroyable. Et tant mieux pour Marseille et tant mieux pour lui surtout. Il n'y a jamais eu de regret par rapport à ça. Je le savais, donc j'étais prêt plus ou moins à me dire, il faut que j'explose. Mais après, ça faisait longtemps. En même temps, je n'ai pas joué longtemps, mais en même temps, je suis resté longtemps dans ce club. Donc, je savais qu'à un moment donné, il allait arriver un moment où il faut que je change de direction.
Dans les échanges que j'ai avec vous, j'aime comprendre l'aspect psychologique qui est souvent négligé dans les récits offerts par les médias de manière générale, où on parle que de performance et de statut, etc. Mais tu m'as expliqué que tu revis une blessure longue durée, donc tu sais à quoi t'attends et tu sais la complexité de la chose. Tu avais horreur du fait d'être mis de côté d'un groupe qui est engendré généralement systématiquement avec une blessure. Il y a le fait de perdre ton statut à l'OM, il y a le fait de comment ça s'appelle, de voir que c'est encore ton rêve qui est menacé. Il n'y a jamais un moment où moi quand j'essaie de me mettre à ta place, je me dis, mais j'aurais pété un plomb. Jamais tu perds pied, toi. Jamais il y a un excès de colère, jamais il y a, ou de tristesse, tu ressens jamais ce genre de choses. Parce que là, quand tu me le racontes, j'ai l'impression d'un homme apaisé. Alors évidemment, il y a le recul, il y a, tu sais comment se terminent les choses après, donc il y a un recul qui est pris. Mais sur le
48
moment, il n'y a jamais un moment où tu as envie de tout casser.
heures. La tristesse, pas énervé, mais triste, mais 48 heures. Ça a duré à chaque fois 48 heures. Et au bout de 48 heures, je me suis dit, écoute, il y a deux solutions. Bah, écoute, tu reviens plus ou moins de ta blessure, tu décides de rester second gardien à Marseille et tu fais ta carrière comme ça, tout va bien, et voilà. Ou deuxième solution, tu vas chercher ce que tu as perdu. Pour moi, il n'y avait qu'un truc qu'avait en tête, c'était cette histoire de présélection et cette histoire de Ligue des Champions. Et là vient la fin de saison. Marseille fait une bonne fin de saison. Moi, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Et là, rapidement, j'ai Toulouse qui m'appelle, qui vient de se sauver à la dernière journée, 17e du championnat. Plein de joueurs qui partent, une équipe de jeunes inexpérimentés. Eux, ils viennent me voir en me disant, écoute, nous, on veut que tu viennes. On te fait confiance. Toulouse, c'est un club familial. On a été sauvés. On a perdu beaucoup de joueurs et tout. On a de quoi t'offrir un contrat de 4 ans. Tu étais un peu en dessous de ce que j'avais à Marseille. Donc, bon, à ce niveau-là, je m'en fichais complètement. Je voulais juste jouer. Et je me dis, OK, ça me plaît. Alors, je rentre à Marseille. Je commence à réfléchir. 24 heures après, j'ai Nice qui vient me voir, mais j'ai déjà donné plus ou moins mon accord à Toulouse, verbalement. Et Nice, j'adore ce club aussi, hein. C'est un club qui m'a toujours plu, c'est un coin de la région qui me plaisait, mais trop proche du sud, tu vois, trop proche de là où j'étais. Mais comme je suis quelqu'un de parole, j'avais déjà vraiment accroché avec Alain Casanova, Olivier Sadran, je leur avais plus ou moins donné mon accord, mais c'est sûr que sportivement, à choisir, j'aurais mieux fait sur le papier de partir au départ à Nice que Toulouse. Mais ça me tente et j'aime l'enthousiasme qu'ils ont et j'arrive à Toulouse. Tout qui change. Reprise de l'entraînement, je pensais que je m'étais trompé de jour parce qu'il n'y avait pas de supporters, il n'y avait rien. Je ne comprenais pas. Je rentrais en me disant, ben, j'ai dû me tromper de jour. Et là où on récupère à Marseille, quand tu redémarrais, il y avait toujours 3 000, 4 000 personnes. Ici, c'était tout calme. Complètement différent. Un club qui est vraiment en seconde position par rapport au rugby à Toulouse, un club familial où il y a beaucoup moins de personnes dans le club, beaucoup moins de dirigeants. Différent. Et beaucoup de jeunes. Et tu vois, et j'écoute et on se prépare, on fait une grosse préparation et je vois les jeunes et tout, c'est vraiment pas mal. Et j'entendais, oh, Toulouse, ils vont se faire exploser, ils vont descendre, ils n'ont plus personne. Sauf que là, aujourd'hui, on connaît l'histoire, mais quand je te dis dans l'équipe que tu as Carasso dans le but, Mauro Seto, tu prends Jérémy Mathieu, Cheikh Mbengue, Albin Ebondo, Étienne Capoue, Moussa Sissoko, c'est des mecs qui n'avaient jamais joué, hein,
Non.
quasiment. Gignac devant.
C'est tous des internationaux.
J'en oublie certains, enfin Étienne Didot, j'en oublie plein, mais un groupe, mais incroyable,
Incroyable.
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 On prend 27 buts dans la saison. C'est la meilleure saison que j'ai faite au niveau des buts encaissés. 27, c'est rien du tout. On finit meilleure défense. André Pierre, il finit meilleur buteur. On est quatrième du championnat. Et on mettait des raclées à tout le monde. Enfin, c'était incroyable. On avait une équipe de fous. Et le problème, comme je te dis, Toulouse, on va dire c'est mon seul regret de ma carrière. J'ai aucun regret de ma carrière. Si j'avais tout à refaire, je referais tout pareil. Mon seul regret, c'est que je n'ai pas pu rester plus longtemps. On va me dire, oui, tu aurais pu rester plus longtemps. Oui, c'est vrai. Mais moment charnière. Comme je t'avais expliqué avant, moi, il y avait un truc qui était important. Et bon, attends, je vais trop vite là dans Toulouse. C'est qu'à la mi-saison à Toulouse, je redécouvre l'équipe de France. Je suis
C'est ce que
sélectionné.
j'allais dire. Tu me dis, tu retrouves tout. Il y a la convocation en équipe de France.
Je retrouve l'équipe de France. Donc, premier objectif dans ma tête dès le départ de ce que moi, on m'avait enlevé par rapport à ma blessure. Donc, incroyable. Je découvre l'équipe de France, je retrouve Steve, je découvre Hugo. Et c'est assez incroyable.
Ce qui est fou quand même, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais ce qui est fou, c'est que être à Marseille, trouver l'équipe de France quand t'es bon, que ton équipe tourne et que t'es le gardien numéro un, il y a une sorte de logique. Excuse-moi, mais retrouver l'équipe de France quand t'es à Toulouse, c'est
Je
plus fort
retrouve
que...
l'équipe de France en 6 mois en étant à Toulouse.
C'est incroyable. Évidemment, ce que t'as fait avant à l'OM a servi, évidemment.
Oui, mais
Mais
ce qu'on
c'est
a fait à
incroyable,
Toulouse,
ça.
quoi. Et c'est surtout les mecs se sont dit, non, en fait, il n'a rien perdu, quoi, le gars.
Ah
Au
ouais,
contraire,
c'est fou.
il est encore mieux. Et je retrouve l'équipe de France 6 mois après, en n'ayant pas joué d'une saison quasiment. Donc, c'est assez incroyable comme histoire. Et donc, première étape d'un rêve de gamin qui sait, parce que c'est un rêve de gamin, hein, tu côtoies ce qui se fait de mieux dans ton pays, enfin, représenter son pays, c'est incroyable, hein, comme tu vois, là, petit
Ouais, classe,
camion.
monsieur.
Là, tu te dis, oui, j'ai réussi quand même ma carrière sportive et là, on est arrivé à un niveau qui commence à être intéressant. Le regret, c'est Toulouse, c'est je fais qu'une saison. Ben, j'ai Bordeaux qui tape à la porte et qui dit, ben, nous, on est champion de France, on a eu des problèmes avec les gardiens, on veut un gardien qui nous tienne la baraque en Ligue des Champions. On veut, ben, le Carasso, ben, c'est le gardien de l'équipe de France, le troisième. On a Loris qui part à Lyon, on a Mandanda qui joue à Marseille. Nous, on veut qu'il vienne chez nous et qu'il fasse partie du meilleur club de l'année, quoi. Sauf qu'à Toulouse, niet, Sandro n'est pas d'accord. Lui, il dit non, 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 Carasso, il reste ici.
Toi, tu te positionnes tout de suite en oui pour Bordeaux
Au
à l'époque.
début, j'étais complètement paumé, je vais te dire la vérité, j'étais vraiment paumé parce que je suis parti de Marseille en tombant amoureux de cette équipe de Toulouse, de ce groupe aussi. J'arrivais de Marseille, j'arrive à Toulouse et au moment où je commence à bien m'installer et que je vis des choses incroyables, on pose une problématique. Les gens, tu sais, souvent ils vont parler financier, pas financier. Souvent ils vont te dire ça. Et c'est là où on va revenir dessus parce que je ne suis pas quelqu'un qui cache par rapport à ça. Si j'étais resté à Toulouse, je pense que j'aurais gagné au moins une fois et demie ce que je gagnais à Bordeaux. Déjà. À un moment donné, Bordeaux va jouer la Ligue des Champions. Donc mon deuxième objectif que je voulais récupérer, même si on était qualifié en Ligue Europa avec Toulouse, et je me rendais compte que c'était une opportunité incroyable de pouvoir reprendre la Ligue des Champions, d'être avec un entraîneur aussi comme Laurent Blanc, tout ça. Donc, oui, je décide d'aller voir Olivier Sadran avec mon agent à cette époque. Et il me dit, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, les gars? Imagine que vous voulez prolonger avec la saison qu'il a fait le petit. Je fais, non, on veut partir. Et là, il me regarde, tu commences à partir. Déjà, on veut partir et de deux, tu vas pas être content où on veut partir. Comment ça ben ouais, c'est Bordeaux. Ah non, commencez pas avec Bordeaux. C'est l'année d'avant, il y avait eu un souci avec Jérémy Mathieu, tout ça déjà.
Ouais.
Ah non, non, non. Non, tu pars pas, c'est comme ça. Ah oui, toi, ton contrat, ben, je t'augmente de 20%. Non, Olivier, non. C'est pas, je te jure, on n'est pas en train d'essayer de gratter en disant qu'un club nous veut. Non, non, mais je t'augmente de 30%. Non, mais Olivier, c'est pas ça, pas du tout. Et on n'est pas du tout venu dans cette optique, au contraire, on est presque gêné et tout. Voilà, c'est bon, je vous ai compris. Et je te dis, cette discussion, elle dure 15 minutes. Non, mais je t'augmente de 50. Non, Olivier, je te jure, c'est pas du tout pour ça. Nous, on veut. Je t'augmente de 100% avec une énorme prime à la signature, ça te va? Non, mais Olivier, t'as pas compris, c'est pas ça. On n'est pas du tout dans ce truc de se dire. Non, non, mais c'est comme ça, tiens, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Non, mais je dis, Olivier, je te jure, c'est pas, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans cette optique. C'est pas ça. Non, en 15 minutes, j'avais plus que doublé mon salaire. Sans vouloir ça. Donc, pour te dire que si
Incroyable.
j'avais voulu penser qu'à ça, 10 minutes de plus et je le triple. Donc, ce n'est pas du tout mon but à ce moment-là. Mon avenir, il se construisait sportivement. Donc, on part dans des discussions incroyables. Après, tu as aussi Dédé Gignac qui veut partir à Marseille. Tu as Étienne Capoue qui est sollicité par l'Angleterre. Tu as Moussa Sissoko qui est sollicité par l'Espagne. Enfin, tout le monde est sollicité dans ce groupe incroyable. Et Olivier, au moment donné, il pète un plomb. Il dit, non, non, mais maintenant, vous arrêtez tous. Il n'y en a qu'un qui partira. Ce n'est pas compliqué, il n'y en a qu'un. Mais on ne sait pas qui. Donc après, on se frite entre nous. Moi qui parle avec le papa de Dédé Gignac. Ah, c'est bon, laisse-nous tranquille. Nous, on est plus vieux. Enfin, on sort tout le baratin. Bon, bref. Mais on s'entendait tous très bien. Hein. Et en gros, ça finit que ça part dans les négociations. À cette époque, qui est assez incroyable, c'est que Toulouse, eux, veulent 8 millions. Faut se dire qu'à cette époque-là, il y a eu deux gardiens qui ont été plus chers que 10 millions, ça a été Buffon et Loris. Et quand on parle de 8 millions à l'époque, c'est comme si aujourd'hui je te disais 45 millions, 50. Hein, pour le coup de... Et sauf que Bordeaux, non, maître, 8 millions, donc 4, 4 et demi, ça dure 15 jours, 5, non, c'est 8, 5 et demi, 6, 6 et demi, et on arrive comme ça pendant 15 jours, ils s'entendent pas. Et moi, je me dis, c'est mort, quoi. C'est fini. Je dois rentrer à Toulouse avec tout ce que ça comporte. Les mecs, ils vont râler parce que ça a été tendu, ça a été chaud. Et je sais que j'aime beaucoup ce club, hein, Toulouse. En plus, c'est vraiment. Même quand je suis parti, ça a été dur. Tu vois, il y a eu un moment où
Tu m'étonnes.
j'étais vraiment bien là-bas. Et je me souviens toujours, j'étais en avion pour les vacances, parce qu'on finissait l'équipe de France. Donc, je pars en avion dans les vacances et j'avais une escale à un moment donné à Doha. Et là, je vois, bon, j'allume mon téléphone. Bon, je me suis dit que c'était mort, quoi, hein, plus ou moins. On était à 7 millions pour Bordeaux et Toulouse en voulait 8 et Bordeaux ne voulait plus mettre un centime. Dernier appel, il me dit, écoute, mon agent, il m'appelle, il me dit, écoute, Cédric, c'est point mort, c'est fini. Je dis, pourquoi, on en est où? Ben, Olivier, il veut 8 millions, il lâchera pas l'affaire. Bordeaux, ils ont 7 millions 5, ils n'ont pas plus. Et là, je m'assois et je me dis, attends, on est encore dans une histoire de dingue. Donc 8 millions, 7 millions 5, je dis, écoute, il me propose quoi, moi, comme contrat? Propose un contrat sur 4 ans. Et je me dis, ben, écoute, c'est pas compliqué. À Bordeaux, tu leur dis que sur ma première année, ils m'enlèvent les 500 000 euros qui manquent et je les paye moi. Qui l'appelle, me dit, écoute, j'arrive pas à les avoir, je vois avec eux. Donc moi, je reprends l'avion. J'ai re 5 heures d'avion. Et au bout de 5 heures, il m'appelle, il me dit, écoute, c'est bon, ils acceptent. Donc j'ai pris 500 000 euros de mon contrat promis à Bordeaux sur ma première année pour arriver aux 8 millions. Enfin, on n'aurait pas pu faire tout ce truc-là et rentrer dans tout ce débat-là pendant des semaines et des semaines pour que ça capote pour même pas 10% de la valeur du transfert, quoi. Donc j'avais décidé de les payer moi, tout simplement. Mais c'est vraiment un club que j'ai adoré en un an, quoi. Enfin, c'est un an, mais c'était un an de fou, quoi. Et c'est mon regret, si tu préfères, dans ma carrière, j'ai qu'un seul regret. C'est peut-être de ne pas avoir fait un peu plus, mais bon, l'opportunité a fait que c'était comme ça, mais c'est vrai que c'est un club que j'aimais beaucoup.
De payer toi-même la fin du ce qui manquait du transfert, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont fait dans leur carrière.
Le plus important, c'était de me retrouver dans une situation de ce qui me. Voilà. Et en arrivant à Bordeaux, en fait, je me retrouve dans la situation ben, en me disant ben, j'ai retrouvé ce que je devais avoir à Marseille, en fait. Et maintenant, commençons l'aventure avec Bordeaux, apprenons à travailler avec ce groupe et ce groupe incroyable où tu arrives, où tu as des mecs, putain, entre les entraîneurs, le président, les joueurs qui sont sous l'euphorie de leur titre. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ce club de fou? C'est trop bien en fait ici. Les mecs, ils sont au top, quoi. Enfin, je suis tombé dans un groupe où je me dis, ben, il n'y a qu'à faire en fait, il y a juste à faire parce que c'est les mecs étaient super soudés entre eux. Tu avais un président, Jean-Louis Triaud, qui était incroyable. Tu avais des entraîneurs sur Gassé, Laurent Blanc, le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens, Domi Dropsy. Enfin, là, tu te dis, tu tombes aussi dans un club incroyable, quoi. Et j'ai eu de la chance, c'est comme ça que je reviens toujours dessus en disant la chance que j'ai eue dans ma carrière, c'est d'avoir que des bons groupes, et c'est vrai. Ben là, je tombe aussi dans un groupe de fous furieux, quoi. Et surtout, footballistiquement, quoi.
Bah c'est ça que j'allais te demander. Au départ, quand j'ai préparé, je ne vais pas te mentir, quand je prépare notre interview, je retrace ton parcours et je me dis, tiens, on va lui demander quand même ce qu'il a ressenti du fait de signer dans un gros club de France à ce moment-là, les Girondins de Bordeaux avec une histoire, de prendre la suite d'un grand gardien au niveau national qui a été très important et dans l'histoire du club, Ulrich Ramé, retrouver la Ligue des Champions, l'exposition, etc. Après, je me suis dit, mais tu vas lui demander ça, mais en fait, tout ça, il l'a vécu à Marseille déjà. Donc finalement, il sait gérer ça. Par contre, la qualité de ce groupe-là, qui sort d'une saison incroyable, une qualité de jeu incroyable, un Gourcuff extraordinaire, est-ce que ça, tu l'avais déjà vu en termes de qualité intrinsèque quand tu étais à l'OM?
Bon. J'avais jamais vu, ah oui, on avait de la qualité, mais j'avais jamais vu un groupe aussi fort. Je crois que j'ai rarement vu En 6 mois, parce que malheureusement, ça a duré 6 mois, j'ai rarement vu dans ma carrière un groupe aussi fort, même en Europe, je pense, sans vouloir être
Ok.
trop.
Ok.
Tu parles d'une équipe qui finit la demi-saison, parce qu'il faut reprendre cette demi-saison avec des chiffres incroyables. Tu mets 10 points au deuxième de Ligue 1. Tu fais 16 points sur 18 dans ton groupe de Ligue des Champions avec le Bayern et la Juve en
Ouais.
encaissant 2 buts.
Ouais.
Mais t'exploser tout le monde. Cette année-là, s'il n'y a pas tout ce chamboulement à un moment donné et que le groupe reste linéaire, tu as une équipe pour faire demi-finale de Ligue des Champions. Mais sûr, on marchait sur tout le monde. Enfin, c'était incroyable. Moi, j'ai rarement vu un groupe être capable de se transcender à chaque fois. Alors, ce n'était pas les meilleurs joueurs, hein, au niveau individuel, mais au niveau du groupe, c'était un rouleau compresseur, quoi. J'ai halluciné, moi. Au début, même pour moi, c'était difficile de m'adapter les 2, 3 premiers matchs par rapport à ça, tu vois. Et après, d'un coup, c'est parti. Mais au début, je me suis dit. Et en plus de ça, dans une ambiance où tu te dis, c'est pas possible, on avait l'impression de. C'était pas le centre aéré, tu vois, mais presque, quoi. Premier match, c'est des anecdotes de fou, hein. Premier match de Ligue des Champions à Turin, on jouait à Mario Kart sur la DS, en réseau, dans le bus pour aller au stade. En train de se balancer des carapaces rouges et bleues, hein, les mecs en train de gueuler pour tu m'envoies la bleue, pas pour que tu m'envoies la bleue, et derrière tu. Mais c'était ça la force de ce groupe, c'est qu'il était capable de rigoler ensemble tout le temps. Mais quand il y avait le match, en une seconde, n'y avait ni de jalousie, il y avait tout le monde se mettait au diapason de l'autre. Il n'y avait pas de moi je suis remplaçant, tout le monde était là. Et tout le monde avait compris que peu importe qui joue, le fait qu'on gagne tout, ça bénéficiera à tout le monde. Et tu vois, et ça, c'est une des choses importantes à inculquer, je pense, dans des groupes, c'est de comprendre que tout ce qu'un groupe réussit, tout ce qu'une équipe réussit, va faire des performances incroyables. On va prendre l'exemple de Lens aujourd'hui, par exemple. Ben, ça sera bénéfique pour tout le monde, pour les mecs qui jouent comme les mecs qui jouent moins. On se dira, ils étaient dans ce groupe, donc le mec, s'il cherche un club, il aura toujours un meilleur club que si le groupe entier avait été mauvais. Donc, c'est bénéfique à tout le monde. Et ça, cette équipe de Bordeaux avait compris ça. C'est ça qui était incroyable. C'est que ben, tu avais une vingtaine de joueurs et vingtaine de joueurs, peu importe qui jouait pas, ça se battait à bloc et tout le monde était fort, quoi. On a fini, il fallait finir aussi par Galatasaray et la Turquie. C'est aussi, c'était important. Quel pays aussi? Je recommande à tous les footballeurs, s'ils ont la chance de pouvoir aller jouer dans un club comme Galatasaray une fois dans leur carrière, allez-y. Ça vaut le coup. Des gens extraordinaires, c'est un pays extraordinaire aussi.
Un engouement de dingue.
Ouais, un engouement de dingue, mais surtout voilà, ce pays qui est mal dépeint de chez nous, malheureusement. Je pense qu'on a une mauvaise image de ce pays-là et croyez-moi qu'une fois sur place, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses où ils ont vraiment peut-être encore plus. Ouais, ils ont raison par rapport à nous sur plein de choses. C'est un
Ça a
beau pays.
été, ça a été une des plus grosses surprises de ta carrière, de ce que tu as vécu une fois avoir signé là-bas.
Ouais. Ben oui, parce que tu t'attends pas à ça. Moi, j'ai 35 ans. Tu te dis, tu vas aller où? D'un coup, ça se finit avec Bordeaux en queue de poisson. Tu sais pas trop ce qui se passe. Tu as 35 piges. T'es pas prêt. T'as pas préparé 6 mois avant, quoi, que tu vas te partir, quoi. Tu as 35 ans. Tu fais une des meilleures saisons de ta carrière. Regarde. Meilleur gardien de la saison. Te dis, c'est pas possible. Il faut que je parte d'ici, quoi. C'est mon club. Laissez-moi tranquille. Non. Ok. Je m'en vais. On va où? Un premier contrat qui arrive du Sporting Portugal, ça me va. Finalement, une histoire d'agent, ça ne se fait pas.
Ah, c'est une histoire d'agent.
Ouais, c'est des trucs du
Ouais,
foot
ouais, ouais.
qui ne font pas
Le côté
plaisir.
sombre du foot.
Ouais, mais bon, j'avais mon âge, donc j'étais moins axé là-dessus. Ça ne me faisait rien. Je dois partir à Arsenal avec Arsène. Troisième gardien, parce qu'il ne savait pas si Ospina ou Seth, il y en a un qui partait. S'il y en a un qui partait, Jean Quillet. Et si finalement, il ne savait pas, donc j'ai dit, je ne vais pas y aller pour être troisième gardien. Parce que bon, qu'est-ce que je vais faire, troisième gardien? Bon, même si c'est Arsenal, tu vois, mais Je venais de sortir de jouer, je voulais au moins être deuxième et vivre dans le groupe au quotidien à 35 ans. Et vient Galatasaray avec le charme turc un peu, cet engouement, toute cette exagération. Tu te dis, oui, non. Allez, go, j'ai baffé Gomis qui m'appelle, il me dit, Ced, allez, vas-y, viens, c'est trop bien là-bas. Je dis, écoute, si tu le dis, j'arrive. Allez, c'est parti.
Ah,
Mais
bah, fait
quel.
t'as appelé.
Hein?
Bah, fait t'as appelé.
Ouais, Bafé m'a appelé en me disant, Cédric, c'est trop bien, viens avec nous. Il y a Younes Belanda, il y a Sofiane Feghouli, il y a un super groupe, Istanbul, c'est trop bien. Putain, je dis, mais attends, il me raconte tout ce qu'on nous dépeint de mal dans les infos. C'est quoi cette histoire? Ouais, je dis, bon, mais ok, Bafé, si tu le dis, j'arrive. J'y vais, à la fin aussi, fin de mercato, pareil. Et je me suis éclaté. Quel pays de fous, quelles légendes sont trop gentils. Enfin, franchement, si j'avais pu enquiller encore un an, j'aurais pu faire un an, mais vraiment sur le dur, quoi, tu vois, parce que
Ouais,
si
ouais.
j'arrête, c'est avant tout parce que physiquement, j'ai fini épuisé. Là, je commençais vraiment à sentir les blessures, les trucs. Alors, j'avais jamais été autant en forme que ma dernière année, mais physiquement, mais par contre, tu vois, je commençais à avoir ce qu'on appelle des bursites, c'est des boules
Ouais.
au niveau des hanches à force de plonger. Enfin, mon corps, il n'en pouvait plus. Donc, il a fallu prendre une décision. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé enquiller une seconde saison avec une dernière saison avec Galatasaray. Bon, on finit sur un championnat de Turquie. Donc, ça va, champion de Turquie, c'était cool. Et ouais, content de ma carrière à l'arrivée. Et ce qui est important, Colin, tu vois, avant de conclure, c'est qu'aujourd'hui, je suis. D'avoir bien fini comme ça en Turquie, c'est fou, mais j'ai aucun regret de ma carrière, en fait. J'ai que des bonnes choses, il me sort que les bonnes choses. Tu vois, les mauvaises choses, je vais pouvoir t'en raconter quand on en parle là, mais j'ai aucun sentiment de manque de quelque chose dans ma carrière. Alors, j'aurais pu peut-être faire mieux, j'aurais pu vivre d'autres choses si je n'avais pas été blessé, certes, mais à l'arrivée, j'ai réussi à atteindre, tu vois, tous mes objectifs, tous mes rêves de jeune. D'avoir aussi fait plaisir aux jeunes quand moi j'étais en haut. Mais ouais, j'ai jamais rien lâché et c'est ce que je dis souvent, ne lâchez pas quoi. Parce que le foot, ça va vite dans un sens comme dans l'autre, mais si on se donne les moyens de faire les choses, tu peux vivre des choses incroyables.
Merci mon ami.
À bientôt!
Merci, prends soin de toi. Merci, un grand, grand merci à Tamara parce qu'elle était au top, toujours
Ah ouais,
dispo,
c'est.
toujours sympa, toujours dispo et toujours à essayer d'arranger les choses. Donc, merci pour tout. Les autres, bah, merci de continuer de suivre Call Interview. On se retrouve très vite avec un autre invité, d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.